Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Bruno Monnier.
Bonjour.
Bruno, on se rappelle de tes nombreux déjà passages à la radio. Je voudrais qu'on les remémore un petit peu à nos auditrices, auditeurs. Tu es géobiologue.
C'est
Redis-nous
ça.
Ce que c'est.
Oui, je suis géobiologue, spécialiste en habitat sain. J'ai une petite entreprise et j'interviens du coup sur les questions d'habitat et sur les questions sanitaires du logement en fait. De toutes les perturbations, nocivités et pollutions que l'habitat peut générer et qui peut impacter notre santé en tant qu'occupant.
Oui, quand on parle de sanitaire, hein, c'est pas les toilettes, c'est vraiment
la santé.
La santé.
C'est la santé dans l'habitat, comment faire en sorte que son logement, l'endroit où on vit, l'endroit où on passe le plus de temps, donc ça peut être aussi évidemment transposé sur le lieu de travail, mais moi je m'occupe spécialement de l'habitat, comment on peut créer un environnement le plus sain possible. On sait aujourd'hui qu'on a un environnement... hyper pollué de l'air, de l'eau, de la terre, etc. Qu'on est soumis donc à tout un tas de pollution et de nocivité. Et mon travail donc cherche à réaliser dans son logement, dans le premier endroit où l'on vit, de faire en sorte que cet endroit soit le plus sain possible, le moins pollué possible. Voilà, c'est faire en sorte que ça soit un cocon, en quelque sorte, le plus agréable et le plus sain possible.
Alors j'invite bien sûr tous ceux qui nous écoutent à replonger dans les archives d'RDWA. Il y avait 4 sessions, notamment sur...
Oui.
Comment rendre son habitat le plus sain possible, ou en tout cas comment réfléchir à quelles sont ces nuisances et pollutions dont tu parles. On peut les rappeler quand même vite fait, hein, ça passe par la qualité de l'air, par les ondes électromagnétiques.
Voilà, on avait, il me semble, fait 5 émissions d'une heure, parce qu'on avait découpé justement les sujets que j'ai l'habitude de traiter, que sont les champs électromagnétiques. Donc il y avait une émission sur les champs électromagnétiques basse fréquence, ceux qui sont issus du réseau de transport d'électricité. Une autre émission sur les champs électromagnétiques dites haute fréquence ou hyper fréquence qui servent au transport de données, donc les antennes relais, le wifi, etc. On avait fait une autre émission sur la qualité de l'air, tout à fait juste. Une autre émission spécifique sur le radon, ce gaz naturel radioactif, qui est une vraie problématique aussi de l'habitat. Et une dernière émission sur la géobiologie au sens un peu plus large, donc là plus sur les... nocivité, perturbations un peu énergétiques, on va dire, les perturbations subtiles qui viennent en partie aussi du sol et des événements du sous-sol géologique.
Voilà, là où on pourrait être installé sur un nœud,
par exemple,
un passage d'eau.
C'est ça, exactement, tout à fait.
Ou au-dessus d'une pierre qui aurait servi à des trucs bizarres, par
c'est
exemple.
C'est ça, ou des failles géologiques aussi. Donc tout un tas de phénomènes plus subtils qui sont moins, évidemment, qu'on ne démontre pas là, du coup, avec des appareils scientifiques, contrairement aux champs électromagnétiques ou à la radioactivité. Mais qu'on met en évidence par des techniques de sensibilité humaine et par le biais de la radiesthésie notamment.
Mmh. Ce qu'utilisent les sourciers, hein, pour
exactement.
Parler simplement.
Exactement, ouais, voilà.
Ça parle à tout le monde.
Quand moi je travaille, effectivement ça se rapproche au travail du sourcier. D'ailleurs je suis sourcier aussi sur une autre partie où le sourcier, la différence va s'attacher, son travail, son étude va s'attacher au travail sur l'eau, à la recherche de l'eau, où est-ce qu'elle passe, sa profondeur, son débit, etc., pour chercher à capter l'eau. Le géobiologue, c'est d'être la même démarche, mais sa concentration va s'appuyer juste sur les énergies et les nocivités de ces différentes énergies.
Tout ce que tu nous proposes et ce que tu proposes dans ton entreprise, c'est un travail d'étude,
c'est
un diplôme, hein, bien sûr.
C'est un travail d'étude et de conseil surtout, parce que... Par exemple, aujourd'hui, sur les champs électromagnétiques, il est tout à fait possible de faire demander, si on a une inquiétude ou un souci particulier, de faire, donc surtout sur la problématique des antennes relais, de faire réaliser de demander une étude, on va dire, officielle, entre guillemets, à sa mairie, c'est gratuit. Et là, ce sont des organismes accrédités qui vont faire ces études, COFRAC, ou la PAV, par exemple, etc. Mais eux, ils ne font pas de conseils et ils sont soumis aux normes actuellement en France. Moi, la différence avec mon travail, c'est que moi, je ne travaille pas avec les normes, mais avec des recommandations en termes d'habitat sain, qui sont issues d'un travail des associations, des organismes qui luttent contre la protection du public contre ces champs. Donc voilà, je travaille avec des recommandations et puis surtout avec du conseil. Comment on peut améliorer la situation, quels outils, quel aménagement on va mettre en place pour diminuer son exposition à ces champs électromagnétiques. Donc il y a une vraie valeur ajoutée, c'est vrai, c'est très différent.
Et le sens de ma question, elle est aussi dans toi, ton parcours. C'est quelles sont tes études à toi? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là?
Alors moi, j'ai une formation de paysagiste à la base, donc vraiment pas grand-chose à voir. J'ai un cursus professionnel assez divers et varié, mais j'ai découvert la géobiologie en 2009, un peu par notre ami hasard, si il existe. Et c'est des formations qui sont spécifiques, des formations privées qui forment à ces techniques et à ces connaissances, donc qui sont, on va dire, hors cadre habituel de cursus scolaire. C'est sûr que même les architectes ou les spécialistes de la construction, on pourrait dire, par exemple, ne connaissent pas ou très mal la problématique des champs électromagnétiques, très mal la problématique du radon, par exemple. Donc c'est une formation spécifique. Ouais.
D'ailleurs, si c'était prévu en amont, dans la construction, peut-être que le câblage électrique ne se ferait pas de la même manière.
Ah, oui.
Sans doute qu'on ne placerait pas les appareils aux mêmes endroits.
C'est sûr que le travail en amont dans un projet de construction fait en sorte qu'on évite un grand nombre de problèmes et à moindre coût parce qu'on inclut les informations dans le principe de construction. Et que, évidemment, quand on fait ça, ces études dans un habitat déjà existant, c'est toujours un peu plus complexe. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, mais c'est plus complexe que quand on est dans un projet et où là, on peut intégrer justement toutes ces connaissances et ces remèdes, en quelque sorte, contre ces pollutions. Ouais.
Tu nous parlais aussi de recommandations sur lesquelles tu t'appuyais. Alors évidemment, il y a un paquet maintenant de plus en plus même oui. D'organismes et d'associations de défense, notamment des personnes électro-sensibles, électro-hypersensibles. On en entend de plus en plus parler. On attend peut-être une reconnaissance des grands corps médicaux. Ces recommandations, mais aussi toi, je voulais qu'on connaisse ta sensibilité avec toutes ces problématiques-là. Ça part de quelque chose que toi, tu vis ou tout d'un coup, tu t'es dit, bon là, il y a un problème de santé publique, je m'y attends. Même si je ne suis pas sensible moi-même.
Alors moi, personnellement, je ne suis pas électrosensible. Je n'ai pas ces syndromes-là, heureusement. En tout cas, pas encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne naît pas électrosensible, on le devient.
Bien sûr.
Souvent, on parle des gens en disant « ils sont électrosensibles ». Non, ça peut être n'importe qui. Ouais. On devient, c'est une sorte, on pourrait dire, d'allergie.
Due à l'exposition.
Due à l'exposition. Ouais, c'est ouais. À un moment donné, le corps ne supporte plus jusqu'à un certain seuil. Il accepte et il lutte contre cette nocivité, mais au bout d'un moment, voilà, il ne peut plus lutter et donc il a une réactivité, une réaction contre ces champs et c'est les syndromes d'électrosensibilité. Donc non, je ne suis pas électrosensible, c'est plus là par le biais de ma formation et après dans l'exercice du travail que qu'on se rend compte de la vraie problématique qui est vraiment réelle et sérieuse qu'il faut considérer. Et qui est assez logique en même temps aussi parce qu'elle est issue de notre niveau d'exposition qui ne cesse d'augmenter à ces champs électromagnétiques depuis de nombreuses années et de façon un peu exponentielle. C'est-à-dire que les dernières années, là, depuis les années 2000 ou 1990, on a augmenté par 100 sans problème notre niveau d'exposition aux champs électromagnétiques. Et il faut vraiment faire cette nuance aussi, c'est-à-dire que les champs électromagnétiques dont on parle bien des champs électromagnétiques artificiels, ceux qui sont générés par l'industrie humaine,
par la technologie,
et qui sont non naturels, parce qu'évidemment il existe des champs électromagnétiques naturels, la Terre en émet, des champs électriques, des champs magnétiques, le corps même humain, la biologie émet des champs électriques, mais qui n'ont rien à voir structurellement, physiquement, on va dire, avec les champs que l'homme fabrique. Et c'est cette différence de nature physique qui sans doute impacte à un moment donné la santé et la biologie humaine.
Oui, donc tu dirais qu'on est capable d'encaisser oui. l'électromagnétisme naturel, mais pas celui qu'on a créé nous-mêmes.
Oui, parce que l'électromagnétisme naturel, évidemment que nos cellules, notre organisme, par l'évolution, par le temps de l'évolution, s'est construit avec toutes ces choses. Justement, les champs, la nature des champs électriques artificiels sont vraiment complètement différents. Hein, par exemple, juste pour créer une image, les champs naturels sont plutôt de la forme d'une pile ou d'un aimant. Hein, c'est un champ qu'on dit continu, alors que les champs issus du réseau
Bluetooth, Wi-Fi, vas-y. Balance ceux-là, ils sont assez saccadés.
Ils sont très, très particuliers, mais juste par exemple, les champs qui sont issus du réseau électrique d'alimentation, donc les rallonges, les prises, etc., c'est des champs qui sont alternatifs, parce que le réseau d'électricité, lui, il est alternatif. Il change de polarité 50 fois par seconde. On dit que c'est de l'électricité 50 Hz. il y a une variation de polarité 50 fois par seconde. Et donc, les champs qui sont produits par cette tension électrique varient aussi 50 fois par seconde. Et donc, il y a une alternance. Et si, donc pour donner une image, la Terre fonctionnait de la même façon que ça, quand on prend une boussole, eh bien l'aiguille chanferait pôle nord, pôle sud 50 fois par seconde. Vous imaginez que votre boussole, l'aiguille, elle oscillerait comme ça 50 fois par seconde. Pour donner une image, voilà ce que seraient les champs électriques si la nature les produisait comme nous on les produit.
Et pourquoi les produisons-nous comme cela ?
Alors là, c'est très technique, et là, j'avoue que j'ai pas tout à fait les réponses.
On n'arriverait pas à faire un truc plus sain, quoi.
Alors, disons que le transport d'électricité alternatif, c'est plus justement, apparemment, ça serait pour des considérations de perte d'énergie sur le transport du réseau, et on a moins de pertes en créant une énergie alternative. Bon, là, je peux pas rentrer dans les détails vraiment techniques parce que j'ai pas les connaissances, mais en tout cas, ça a été des choix industriels, et a priori, surtout pour le transport d'électricité, il y a moins de pertes avec ce type d'électricité.
Et puis ben, ça nous permet aussi de mettre le doigt dans la prise et de se faire éjecter, hein. Si c'était du courant continu, on serait collé, hein.
Il y a peut-être aussi d'autres, d'autres facteurs comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un fait, c'est que l'électricité qu'on produit est alternative, en tout cas pour ces champs-là. Et après, effectivement, il y a les autres champs hyper-fréquences, comme tu disais là, pour le Wi-Fi par exemple, ou les antennes relais, qui là, c'est pareil, c'est des champs dits pulsés. Et donc, c'est vraiment, quand on regarde ça avec un oscilloscope, très saccadé, très pointu, c'est des pics. Enfin, voilà, c'est des choses qui n'existent pas naturellement.
Voilà, on a retracé un petit peu les différents champs auxquels tu t'attaques et sur lesquels tu travailles. Oui. Et tu conseilles, Bruno Monnier, oui. Une étude qui est basée à Saillan, hein, d'ailleurs.
Oui, alors j'ai déménagé il y a peu de temps, mais pas très loin, je suis à Cray pour l'instant. Ouais.
Alors donc à Cray.
Oui.
Et aujourd'hui, donc, tu voulais qu'on fasse un focus sur les très fameux compteurs Linky.
Oui.
Alors là, c'est pareil, on en entend parler dans tous les sens, des vertes, des pas mûres. Oui. Le principe de base qu'on pourrait peut-être dire général, c'est que ces compteurs, justement, produisent des champs électro-pulsés pour permettre à tous les contrôleurs qui seront de moins en moins de contrôler l'ensemble d'un lot de compteurs depuis leur voiture.
Alors justement, voilà, on rentre dans le cadre de notre niveau d'exposition aux champs électromagnétiques qui va être augmenté dû à ce compteur Linky. Et effectivement, moi, c'est surtout parce qu'il y a des clients, à force de voir des gens qui me posent des questions sur ce compteur Linky, qui m'a fait aussi un peu me dire, bon, bah, il va falloir que j'aille voir un peu ce que c'est ce compteur quand même, surtout qu'on est là maintenant, on est en cours d'installation, hein, de ce compteur.
Obligatoire ?
Justement, pas tout à fait obligatoire. Jusqu'à il y a peu de temps, le projet, c'était remplacement obligatoire de tous les compteurs Linky. Donc, donc le compteur Linky, donc l'objet, c'est de remplacer tous les compteurs classiques de RDF. Hein, je rappelle que les compteurs appartiennent à ERDF, au transporteur de l'électricité. Et donc de remplacer tous ces compteurs, ça fait 35 millions de compteurs à remplacer. Donc ça a démarré avec l'Indre-et-Loire, enfin la Touraine, et il y a eu des expérimentations aussi à Lyon qui ont été faites. Et là, voilà, on est en campagne d'installation et de remplacement de ces compteurs qui va durer jusqu'en 2021.
Parce qu'il y a une double polémique, hein, quand même sur ce compteur. Il y a effectivement l'imposition, le remplacement, pourquoi pas ces problématiques d'obsolescence, de lobby industriel qui vient de choper le meilleur contrat de sa vie sans doute. Hein, 35 000 compteurs, c'est quand même dingue.
Oui.
Voilà, toutes ces choses-là auxquelles on voudrait s'opposer. S'opposer aussi à cette logique du fichage, puisque alors là, c'est parti. Hein,
oui.
L'ensemble des consommations sont ultra connues à la seconde près par n'importe qui.
Oui.
La possibilité du piratage, bien sûr. Alors quand on est sur des données comme ça, qu'on peut contrôler à distance, on va pouvoir faire ça. Et puis, ce niveau d'exposition.
C'est ça. Alors c'est tout à fait juste. Hein. Tu as rappelé les multi-problèmes que ce compteur Linky, l'installation de ce compteur Linky soulève. On pourrait rajouter le coût aussi quand même. Hein. C'est 5 milliards d'euros d'investissement pour remplacer ces compteurs Linky, qui seraient apparemment pris en charge entièrement par l'État. Apparemment, nous, on n'aurait rien
par
à
nous
payer.
Quand même, hein.
Alors quelque part par nous, mais on aurait apparemment... d'après RDF, pas de conséquences financières supplémentaires sur notre facture RDF, hein, ce qui est contesté par d'autres organismes. Donc on pourrait un peu quand même se demander pourquoi ils nous feraient ce cadeau quand même de 5 milliards d'euros. Voilà, quel est l'intérêt pour nous? Alors ils expliquent que l'intérêt pour eux, c'est qu'on ferait des économies du fait d'une meilleure utilisation du réseau électrique, justement, par le biais d'une meilleure analyse de notre consommation.
Oui, voilà, enfin voilà. Des statistiques, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi très contesté. Il y a même des sénateurs, là j'ai ramené un petit peu de documents, il y a eu des discussions au Sénat, il y a même des sénateurs qui contestent cette chose, comme quoi on ferait des économies par une meilleure analyse. Donc, et après, effectivement, comme tu disais, il y a aussi tout ce risque, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire l'enregistrement de données, où ça va, qui va récupérer toutes ces données, le risque aussi de récupérer ces données par des hackers, enfin tout ça, voilà, tout ça, des risques aussi qu'il faut quand même considérer. Après, moi, effectivement, moi, je m'attache là spécifiquement à, comme tu disais, donc à notre niveau d'exposition qui va, de fait, est augmenté par l'installation de ces compteurs Linky. Et donc, pour répondre quand même à ta première question qui est, est-ce que ce compteur Linky est obligatoire? Bien, non, à la suite de ces discussions là au Sénat, donc j'ai avec moi quelques relevés, ça date du 9 juillet dernier, donc c'est quand même tout récent, ces discussions au Sénat. Il y a eu donc des amendements qui ont été rajoutés à la loi de transition, et on peut donc s'opposer. ERDF va tacitement changer ses compteurs, mais en tant que particulier, on peut s'opposer à l'installation du compteur. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ERDF va vous contacter à un moment donné pour vous dire bientôt ERDF va changer votre compteur, et là il faut envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à ERDF pour s'opposer à l'installation du compteur.
Pardon, oui. Juste question annexe. Alors tu parlais de la Touraine, enfin de zones où il y a eu des expérimentations, Lyon oui. En partie.
Lyon aussi.
Est-ce que toutes les nouvelles maisons, toutes les nouvelles installations de demandes de compteurs qui ont été faites, par exemple, dans les 2-3 dernières années,
oui.
n'ont pas été équipées de Linky par défaut? Est-ce que des installations toutes récentes ailleurs que dans ces zones test auraient pu déjà être équipées?
Alors si, il y a déjà eu des installations faites au Canada, par exemple, ça, dans d'autres pays en tout cas, hein, au Canada ça a été fait.
Mais là en France, par exemple, là dans la Drôme là,
alors non, en Drôme, non. Par exemple là en Drôme, alors je le dis comme ça, mais j'ai envoyé des liens ce matin, donc je pense que ça sera sur l'émission. Vous allez avoir, je vous ai envoyé un site où on peut taper sa commune et on sait quand est-ce que le Linky va être installé, en prévision.
Ah, ouais.
Donc par exemple, Die, Craie, etc., la vallée de la Drôme, c'est en 2021, c'est la dernière année que ça va être prévu. Mais enfin voilà, partout ailleurs, on peut indiquer sa commune et on a une prévision de quand est-ce que ce compteur va être installé. Et il y aura d'autres liens. Il y a des exemples type de lettres avec accusé de réception qu'on peut reprendre. On met juste son nom et sa date et qu'on envoie à ERDF. Et je vous ai aussi indiqué une lettre aussi type, parce qu'on peut sensibiliser aussi sa mairie contre ce projet, hein, si on est plusieurs habitants, et faire en sorte que la mairie s'oppose à l'installation du Linky. Il faut savoir qu'aujourd'hui...
Sur
l'ensemble de la commune, voilà. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 15 communes qui se sont déjà, par vote conseil municipal, qui se sont opposées à l'implantation du Linky sur la commune. Donc c'est des actions qu'on peut quand même engager aussi dans la commune où on habite.
Voilà, un arrêté municipal suffirait à opposer pour tous les habitants.
C'est ça, voilà, ouais. Tout à fait. Bon, évidemment, après, ça engage évidemment une discussion, enfin, pour qui, pourquoi, comment, enfin, il faut quand même engager un débat, mais en tout cas, on peut engager ce genre d'effet avec sa mairie et son maire.
Voilà, donc ça, c'est un résumé un peu des amendements qui ont été faits à cette loi, donc des possibilités de s'opposer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, de si tu allais les mesurer, du coup, de qu'est-ce qui balance ces compteurs? Alors,
je n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer le Linky. Après, voilà, j'ai lu quelques informations, notamment du CRIREM, et puis je suis en contact aussi avec un ami qui travaille comme moi sur la région nantaise et qui a eu l'occasion de faire des mesures aussi. Alors... on va essayer d'expliquer un peu comment ça fonctionne, ce compteur Linky. Votre compteur va être démonté et à la place, on met un Linky. Lui, pour connaître votre consommation, il va envoyer sur le courant classique, le 50 Hz, il va envoyer une autre fréquence, une autre onde qu'on appelle du CPL. Donc le CPL existe déjà, bien
oui,
sûr.
Oui,
il y a
on
des gens
s'en sert chez soi. Ouais.
Voilà, on peut s'en servir chez soi pour notamment l'Internet. Quand on ne veut pas utiliser le Wi-Fi, par exemple, il y a des gens qui utilisent le CPL. Donc on a à ce moment-là un émetteur CPL. Et après, on a des boîtiers CPL qu'on branche sur les prises électriques. Et en branchant sur ces prises son ordinateur, eh ben, on capte le signal CPL et on peut être
récupérer
connecté,
Internet,
on récupère Internet comme ça. Donc c'est le même principe. Hein.
Donc là, on imagine par contre que c'est envoyé sur toutes les grandes ondes qui se baladent partout, là, toutes nos fils, voilà,
alors
et
voilà,
tous les compteurs en même temps.
C'est ça.
Pas
alors,
juste un petit internet.
Voilà, là d'abord donc le compteur, donc chaque compteur va envoyer son signal pour une habitation, hein, pour une maison, et donc il va envoyer signal évidemment dans tout le réseau électrique. Donc ce signal, il faut savoir évidemment qu'il se répand dans tous les appareils électriques et dans tous les appareils branchés. Et évidemment, comme toutes nos installations ne sont pas blindées. Il faut savoir que les installations professionnelles, même ERDF, etc., de temps en temps, pour ces concentrateurs ou ces centrales, utilisent des systèmes blindés pour éviter que tout ça se propage partout, évidemment. Mais dans les habitations privées, il n'y a pas de blindage. Donc ça veut dire que ces champs, cette onde, elle va se propager aussi, hein. Donc on la retrouve, on peut la mesurer, elle a 2 mètres. C'est-à-dire que le signal qu'envoie le CPL, le compteur Linky, on peut le mesurer à 2 mètres de n'importe quel appareil branché. Hein, donc évidemment, ça
donc
sort.
Partout dans la maison.
Partout dans la maison. Donc évidemment, on augmente. Encore une fois, là, le niveau d'exposition par ce CPL, il va y avoir plusieurs fréquences utilisées. 2 fréquences, 63,3 kHz et 74 kHz, c'est les fréquences qui vont être utilisées. Le compteur Linky analyse votre consommation. Il va savoir précisément, il ne va pas pouvoir savoir quel type d'appareil vous avez vraiment, ni la marque, ni quel modèle, mais il va savoir quand même les consommations qui sont utilisées dans toute l'habitation. Et par cette analyse...
C'est-à-dire découper,
oui.
Il pourra dire, bah voilà, j'ai sur telle prise, j'ai ça qui pompe, je ne sais
c'est
pas
ça.
Ce qui est derrière,
c'est
mais
ça.
J'ai ça qui pompe.
Exactement.
Et constamment.
Et surtout, heure par heure.
Ça va être très facile de savoir que c'est un frigo, par exemple. Celui-là,
c'est ça.
Il est facile.
Voilà,
mais,
en fonction de la puissance,
autres...
etc., qui est demandée, ils vont pouvoir avoir une idée assez précise de comment l'électricité est consommée dans la maison. Et puis surtout, comment vous occupez cette maison. Est-ce que vous y êtes tout le temps, pas tout le temps? Ils pourront estimer le nombre d'habitants, hein, avec la consommation électrique. Évidemment, on ne consomme pas pareil si on est tout seul et si on est 15 dans une maison. Donc, ils pourront à peu près estimer aussi le nombre d'habitants dans une maison. Ils vont pouvoir estimer quand même beaucoup de choses. Et je pense qu'on sait même pas tout d'ailleurs, mais au moins ça.
C'est dingue. Et après, non, mais on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des normes qui passent sur d'autres types d'appareils, que les télés soient elles-mêmes équipées de quelque chose pour répondre à Linky en disant oui, c'est bien moi qui suis connecté là.
C'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc après, lui, le Linky, capte ses données. Et les envoie aussi par CPL à ce qu'on appelle un concentrateur. Donc là, il va rassembler, lui, le concentrateur, plusieurs maisons, plusieurs logements, un petit quartier, par exemple. Il va rassembler toutes les informations. Là, ça se passe toujours par CPL, hein, du Linky jusqu'au concentrateur. Et là, après, nouvelle exposition au champ électromagnétique, parce que lui, le concentrateur, va envoyer les données aux centrales ERDF, qui peut être évidemment à plusieurs kilomètres, par GSM. Donc GSM, c'est une antenne relais.
Ouais,
d'accord. Donc on va rajouter dans chaque quartier. Bon là, il y a pas de définition encore très précise de combien de données va pouvoir récupérer un concentrateur, mais on peut en tout cas isoler ça par quartier à peu près.
Ouais, ou à l'échelle des villages de nos
ou d'un village
d'ici,
par exemple. Voilà,
il y en aura sans doute un par village.
Et donc pour chaque village ou quartier, il y aura un concentrateur qui lui va émettre après en GSM pour envoyer les données à ERDF. Et donc comme si on allait rajouter à chaque fois une petite antenne relais. Et là, les fréquences, c'est pareil, c'est du GSM 900, donc les fréquences, c'est aux alentours de 800 MHz. Donc on rajoute encore une couche, donc on est toujours là dans le niveau d'exposition des habitants qui va augmenter à cause du Linky.
Contrairement à ce que moi je disais en introduction, on ne va pas pouvoir contrôler maison par maison via un petit Wi-Fi qui serait émis par là ou une autre sorte de réseau. C'est vraiment à partir du concentrateur que ça se fera.
Voilà, c'est ça. Tout jusqu'au concentrateur, entre la maison, le Linky, le concentrateur, c'est par CPL. Donc on va utiliser le réseau de distribution électrique. Et c'est que le concentrateur qui lui va émettre en GSM, en hyperfréquence, jusqu'aux centrales de RDF.
Alors pour les hackers, ce flux de données
oui.
est bien en CPL, tout à fait d'accord, très
oui,
bien,
oui.
mais dépassera bien sûr le concentrateur, sera
oui.
captable
partout.
Partout.
Voilà. Voilà, des gens bien équipés et doués pour la récupération de données pourront récupérer des données de n'importe quelle façon.
Et puis toutes les entreprises vont pouvoir le faire en fait aussi. Ça veut dire que c'est fini, c'est même plus besoin de faire le recensement là. On est tranquille.
Oui.
Chacun pourra monter sa petite cellule de récupération de données et faire des campagnes bien ciblées.
C'est ça. Voilà. Et puis voilà encore une fois avoir des informations quand même assez précises de comment on utilise l'électricité pour chaque logement et c'est une sorte quand même d'intrusion, on pourrait dire. De la vie privée quelque part hein, et ne sachant pas où toutes ces données vont être par qui vont être gérés. Enfin, ça va être par ERDF, bien sûr, mais quel est le degré de sécurité de ces données, qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont pas les vendre. Enfin, on n'en a vraiment aucune idée, quoi. Et aussi, comme tu disais, après, on sort après de la problématique des champs électromagnétiques, mais effectivement, ça fait aussi des emplois en moins, parce qu'il y a tout un tas de gens qui travaillent pour aller faire les relevés, qui là seront faits automatiquement. Du coup, aussi, donc, quand on refuse le compteur Linky, ERDF prévoit une petite augmentation du coût qui va être de l'ordre de 20 euros, je pense, à l'année, quelque chose comme ça, mais ça sera quand même à vérifier précisément, mais ça va être dans ces ordres-là, puisque évidemment, ils vont dire que si vous refusez le Linky, ils vont être obligés d'envoyer quelqu'un, un humain, évidemment, là, pour aller faire le relevé, et ça sera chaque particulier là qui va prendre un coût de ce déplacement d'un humain, alors qu'ils considèrent qu'ils n'en ont plus besoin.
Les fournisseurs d'électricité que sont EDF, Enercoop, oui. J'en passe, et des meilleurs,
oui.
Ont-ils, eux, pris une position face à ce compteur? Est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce que, justement, l'envoi d'humains, c'est là, en séparant les deux, hein, il y a le réseau ERDF, oui, finalement, oui. On n'a pas vraiment d'humains à envoyer.
Oui.
C'est plutôt le prestataire qui a besoin de connaître les relevés.
Ah non, non, c'est ERDF. Hein, c'est ERDF qui est responsable du transport d'électricité, et c'est lui qui transfère les données au fournisseur. Et c'est votre fournisseur vous établit, okay, une facture en fonction des données transmises par ERDF.
Très bien.
Hein, le fournisseur, lui, il a aucune connaissance directe, on pourrait dire, de votre utilisation d'électricité. C'est ERDF qui lui donne les données.
Donc effectivement, ils vont pouvoir soit faire sauter oui, du personnel, soit nous le facturer.
Exactement, c'est ce qui est prévu. Hein. Là, c'est aussi très technique. Bon, moi, je n'ai pas toutes les données techniques, mais il semblerait que le fonctionnement du compteur Linky implique de toute façon une augmentation, contrairement à ce que dit ERDF, implique une augmentation de notre tarification. Il y a tout un tas d'éléments que les anciens compteurs, évidemment, ne prenaient pas en compte, que le nouveau Linky va pouvoir prendre en compte et qui va sans doute être facturé. Voilà. Et ça reste, il y a plein de choses qui restent un peu floues. Hein. Donc c'est ça qui est aussi un peu agaçant, entre guillemets, c'est qu'il y a quand même 5 milliards d'euros qui vont être dépensés, 35 millions de compteurs qui vont être changés, etc., avec tout un tas d'infos qu'on ne connaît pas bien. Hein. Même là, l'utilisation du CPL, donc ces deux fréquences qui sont utilisées, 63,3 kHz et 74 kHz, sont le CPL qui est normalement utilisé pour le Linky, pour discuter, on va dire, avec le concentrateur. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit cette fréquence-là qui soit utilisée à l'intérieur de la maison. Il est possible que ce soit aussi une autre fréquence. Et là, on a les informations, encore une fois, même dans des informations, dans des documents très techniques de RDF, on ne les a pas. Ce n'est pas indiqué. Hein.
Et pour quelle raison, selon toi ?
Je ne sais pas exactement. Après, probablement
en
aussi...
En tout cas, ça empêche des professionnels comme toi de, oui, faire une analyse en amont, sur papier.
On manque de données. Il y a des choses qui ne sont pas très claires, ça c'est sûr, ouais, sur ces questions-là. Je pense qu'ils veulent aussi se préserver sans doute aussi peut-être du piratage industriel. Donc ils veulent peut-être garder des données un peu secrètes, ce qui est un peu logique aussi. Hein, parce qu'ils ne veulent pas tout dire. En tout cas, possiblement, pas créer d'inquiétude. Peut-être que c'est des fréquences beaucoup plus élevées. Enfin, il y a peut-être aussi d'autres fréquences... ils vont peut-être en balancer d'autres. Enfin, il y a des choses qu'on ne sait pas qui peuvent être... Enfin, le fait de ne pas avoir ces informations, ça crée une inquiétude, ça c'est sûr.
Oui, enfin, l'inquiétude est créée de quoi qu'il se passe, en fait.
Oui.
Ouais. Cette levée de bouclier contre le Linky est partie d'où ?
C'est un peu large parce que ça part du Canada où il y a déjà eu des implantations de Linky. Enfin, il ne s'appelle pas Linky au Canada, mais c'est vraiment le même type de compteur. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la problématique de champs électromagnétiques. Et après, il y a des problèmes techniques qui sont relevés, notamment qui viennent du Canada. Notamment des départs de feu du compteur Linky. Il y a un certain nombre de compteurs Linky qui se sont enflammés à cause de défauts électriques. Donc ça crée quand même une
parce qu'il y a une petite machinerie à l'intérieur.
Ah bah oui,
contrairement
bonne...
à avant, c'était juste un fil avec un numéro qui passe.
Là, il y a quand même une bonne machinerie à l'intérieur. Donc il y a des départs de feu constatés du compteur Linky. Il y a aussi des problématiques de compatibilité avec les appareils aujourd'hui qu'on a modernes. Donc ça peut être des télés, des installations électriques, sono, etc., ordinateurs. Et par le biais du signal PCL, fonctionne mal ou s'éteigne ou s'allume. De façon comme ça, un peu hasardeuse. Donc il y a aussi comme ça des choses qui ont été relevées au Canada. D'ailleurs aussi, ce qu'il faut signaler, c'est que l'Allemagne, elle, a refusé l'installation de ce type de compteur. Parce que
le pays entier.
Oui, voilà, tout à fait. Hein. Parce qu'on parle du Linky, c'est sur le cas de l'électricité, mais il y a aussi le Gaspar, qui est le nom du compteur gaz, qui est sur le même procédé aussi. Donc au-delà du nom, c'est aussi le système de fonctionnement que l'Allemagne a refusé complètement. Ouais.
Ouais. Et oui, parce que le gaz de ville, enfin, nous, ça ne nous concerne qu'à peine, mais il y en a un petit peu de partout, ça
oui,
aussi, c'est
oui.
à mesurer.
Voilà, et ça, c'est pareil, ils veulent aussi remplacer tous les compteurs avec le même procédé que le Linky, donc aussi, donc là, c'est, évidemment, le comptage, ça ne fonctionne pas par CPL, mais en tout cas, la transmission de données, ça sera pareil avec concentrateur et émission d'hyperfréquence, ouais, par GSM. Voilà. Donc, il faut voilà, moi, j'avais pour objectif, du coup, un peu, voilà, d'expliquer un peu de façon un peu vulgarisée ce que c'est Slinky, l'impact potentiel hein, que ça peut avoir. En tout cas, c'est sûr que l'implantation d'un compteur Linky va augmenter notre niveau d'exposition aux champs électromagnétiques. C'est une évidence. Et encore une fois, il y a aussi des sénateurs hein, qui le signalent. Il y a eu un débat au Sénat. Et donc c'est lié à ce débat que du coup l'obligation a été enlevée et qu'on peut maintenant s'opposer à l'installation du Linky. Donc il y a quand même des choses qui se passent, qu'il faut considérer.
Selon toi, Bruno Monnier, est-ce que tu trouves que la classe politique française est en train de réellement réfléchir au-delà de ce débat au Sénat sur ces nouvelles problématiques qui apparaissent, ces nouveaux mots, ces nouvelles maladies liées aux expositions électriques ?
Alors je dirais, elle y réfléchit un peu par la force des choses et parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, on va dire, des citoyens qui se réveillent, donc des associations qui font des mouvements, qui écrivent à leurs députés, qui font des courriers, des associations qui se bagarrent et donc à force de pression effectivement nos élus se réveillent, ils sont bien un petit peu obligés de répondre quand même à un certain nombre de questions, mais je dirais que ça avance du coup que timidement. Là, on comprend bien en fait le procédé, c'est-à-dire que tout vient de là-haut, hein, tout vient de l'État. C'est des arrangements, c'est des considérations étatiques avec les grandes industries, avec les monopoles. Nous, on peut intervenir qu'après coup. Hein, c'est quand
le
les choses.
Le programme est bien lancé.
Voilà, le programme est lancé, les compteurs sont travaillés, les budgets sont sortis, tout ça est décidé, et c'est qu'après coup qu'on peut. Et donc ça, c'est inquiétant quand même. Enfin, ça, c'est on retrouve la même chose pour l'amiante, pour tout un tas de problèmes.
Et dont on peine à se débarrasser 40 ans plus tard.
Voilà, et
plus,
hein. Et c'est que quand voilà, on se rend compte des problèmes après coup, on est dans une sorte d'expérimentation à grande échelle, hein, où on fait les choses, l'État décide des choses, et on voit après ce qui se passe. Et bien souvent, après, évidemment, il est trop tard, parce que un certain nombre de gens qui ont sans doute souffert, comme l'amiante évidemment, un certain nombre de morts dans ce cas-là, mais là sur les champs électromagnétiques, un certain nombre de gens qui vont souffrir de cette exposition supplémentaire.
D'autres
et
qui vont en être de
voilà,
ça.
Voilà, d'autres
aussi.
Qui vont en être, exactement, ouais. Tout à fait. Et puis trop tard, parce que souvent après les responsables sont partis, on a changé les responsables, les élus qui ont décidé ça, ils deviennent un peu intouchables et on met la poussière sous le tapis, quoi. Enfin, c'est souvent un peu ce qui se passe. On a la chance que, dans ce cas-là, tous les lignes qui ne sont pas remplacées. Donc, on est encore un peu au début. Donc, c'est maintenant qu'il faut éveiller et éclairer sur ces questions. Et donc, si voilà, les auditeurs qui nous entendent veulent quand même un petit peu se prémunir de ça, ou en tout cas s'intéresser à ce sujet, etc., il faut absolument
s'opposer.
C'est pas l'opposition radicale ou de fait, mais en tout cas s'intéresser et poser des questions, aller voir sa mairie, faire des débats, appeler des gens de RDF et qui expliquent ce qu'ils font, éventuellement faire appel aussi à des associations comme Priartem, Robin des Toits ou le CRIREM. Là, c'est plus sur des associations qui militent contre l'augmentation de l'exposition aux champs électromagnétiques et puis qui travaillent dans ce sens, qui ont des informations aussi à délivrer. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à créer du débat et des actions et à écrire à ses députés pour faire avancer les choses, quoi.
Soyons un peu fous. Tu parlais en introduction de cette interview de notre capacité à gérer des ondes électromagnétiques naturelles, notamment par nos mutations et nos cellules qui ont toujours vécu ici. Est-ce que dans 300 ans, 600 ans, 2000, si on peut encore passer ça, on sera habitué à ces fréquences? Est-ce que nos cellules pourraient muter, elles aussi?
Moi, j'ai du mal à penser ça. J'ai plutôt du mal. Enfin, je pense plutôt qu'on risque d'être vraiment, peut-être pas tous malades ou tous électrosensibles, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Si l'augmentation des champs électromagnétiques artificiels augmente sans arrêt, et sans pouvoir s'en prémunir, on sera surtout, à mon avis, de plus en plus nombreux à être malades et en souffrir. Il faut considérer. Moi, je considère plutôt que l'adaptation, les gens qui sont aujourd'hui électrosensibles et qu'on regarde un peu de loin comme ça sont des lanceurs d'alerte. Leur corps de ces personnes sont aujourd'hui des lanceurs d'alerte pour nous, et ils montrent peut-être des choses qui vont se développer dans le public, enfin pour un grand nombre de personnes. Et il n'est pas impossible que dans 20 ans, si les choses ne changent pas, on sera plus, il n'y aura plus 1% de la population qui sera électrosensible, mais peut-être 20%. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est quand même que les gens qui se disent électrosensibles, voilà, le nombre de ces cas augmente. Et ce qui est le plus inquiétant aussi, c'est que l'âge des gens qui se déclarent électrosensibles diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants de plus en plus qui sont électrosensibles, qui ne peuvent même plus rentrer dans les écoles à cause du Wi-Fi et qui sont le syndrome, ce n'est pas un rêve, qui sont vraiment malades. Il y a des effets physiques, comme des brûlures, des problèmes oculaires, d'audition, etc., liés à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Des mal de tête constants,
des maux de tête,
de dos.
Voilà, exactement. Il y a tout un tas de symptômes, quand même, en plus, qui ne sont pas forcément évidents. Encore, si on a mal, on a des maux de tête parce qu'on utilise beaucoup son portable, on peut faire un lien presque direct, c'est un peu évident. Par contre, si on a des douleurs musculaires presque rhumatismales, on ne va pas forcément faire le lien avec une problématique de champ électromagnétique, alors que c'est peut-être ça l'origine. Problème d'acouphènes, enfin, etc. Il y a quand même ces syndromes sont vastes, en fait. Hein, et c'est d'où la complexité de les faire reconnaître aussi. Hein, ça fait partie de la complexité.
Pour l'instant, ça tape un peu tout, quoi.
C'est ça. Et le corps, il réagit comme il peut et où il peut avec ses ondes qu'il ne connaît pas. En fait, c'est comme si nous, notre biologie, c'est comme si elle ne reconnaissait pas ses ondes. Donc, elle lutte, elle les accepte jusqu'à un certain niveau et à un moment donné, c'est plus possible pour lui, quoi.
Voilà. Et puis, c'est une partie ou l'autre du corps qui vient flancher en premier.
C'est ça.
Autre question, est-ce que des mesures ont pu être faites sur les autres habitants de cette planète, à savoir les animaux, la faune, la flore, les végétaux, comment est-ce qu'ils traitent et gèrent cette exposition, parce qu'eux aussi ils sont dedans là.
Les végétaux n'en souffrent apparemment pas trop. Apparemment, je dis. Hein. Je sais qu'il y a eu une étude qui est pas une vraie étude scientifique. Ça a été faite dans une école en Suède. Donc c'est une école quand même de science, on va dire, mais c'est pas une étude faite par un laboratoire scientifique, mais qui a démontré que le Wi-Fi des plantes exposées à du Wi-Fi, par exemple, poussait moins que des plantes qui n'étaient pas exposées à du Wi-Fi. Donc elles avaient l'air de montrer cette étude que les plantes souffraient au niveau de leur croissance d'une exposition aux ondes électromagnétiques. D'autres études sur le Wi-Fi ont été faites sur des fourmis, par exemple, où des fourmis exposées au Wi-Fi deviennent plus ou moins, enfin pas malades, parce que c'est difficile de dire si elles sont malades, les fourmis, mais en tout cas ralentissaient leur déplacement, se déplaçaient avec des mouvements hasardeux de pattes et d'antennes, alors que normalement, quand elles ne sont pas exposées, elles ne font pas ça. Enfin, tout un tas aussi de phénomènes qu'on pouvait constater lors de cette étude sur les fourmis. Et après, qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Aussi, en agriculture, dans l'élevage, par exemple, on sait que les animaux comme les vaches ou les cochons, quand il y a des problèmes de champs électromagnétiques dans des élevages, sont beaucoup plus malades. C'est le cas des vaches, par exemple, vont faire des mammites, des fausses couches, de façon plus importante que non exposées. Hein. Vont avoir des leucocytes dans le lait, enfin tout un tas aussi de phénomènes que là, les études vétérinaires ont pu montrer. Et quand on corrige ces problématiques de champs électromagnétiques dans les élevages, on réduit ces problématiques sanitaires des vaches.
Voilà, donc ça a été prouvé pour les vaches. Donc.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et d'ailleurs, ça me faisait penser à un autre truc, c'est que on n'en voit plus beaucoup des vaches dans les prés, hein,
oui.
Mais on voit souvent des grandes pâtures avec les lignes très haute tension dessus.
Oui.
En général, il n'y a pas d'animaux sous ces lignes.
Non, en général, il n'y a pas d'animaux. C'est vrai que des fois, on nous dit il y a quand même des oiseaux qui font des
nids. Oui, les oiseaux.
Les oiseaux qui font des nids sur des pylônes, il y a des oiseaux qui se posent sur les lignes de temps en temps aussi, mais c'est pas parce que il y a des animaux qui s'en sortent et qui s'adaptent que ça va bien. On n'a pas fait d'études pour savoir si les œufs de ces oiseaux se développent bien, est-ce que tous les œufs ne meurent pas avant de d'éclore, enfin voilà, il y a très peu d'études qui sont faites là-dessus, hein. Donc ouais. C'est sûr qu'on en tout cas sur le plan des animaux, hormis ces quelques études que j'ai esquissées là, qui sont plus de l'ordre d'associations ou d'écoles qui font des recherches comme ça, il n'y a pas de laboratoire vraiment qu'on fait des analyses sur ces choses-là.
Nous en sommes en fait un peu au début. Les expositions ont augmenté, notamment sur toutes ces ondes pulsées, oui. Ou en tout cas qui se diffusent depuis, on va dire, nos chouettes guerres, hein, de 14 et oui. Puis 40. Voilà, ça a vraiment augmenté depuis ces périodes-là.
Pardon, je dirais même que c'est plus court que ça, parce que même si l'électricité est dans les habitations depuis un certain nombre de décennies, quand même, l'exposition au champ électromagnétique, elle a vraiment explosé, on pourrait dire, dans les années 81-90, avec le GSM, donc avec la téléphonie mobile quand même, qui n'existait pas avant. Donc là, on a une réelle augmentation, sachant quand même avec la rapidité de l'implantation de ces techniques, de cette technologie quand même. Et puis aussi avec tout aujourd'hui les appareils électriques, électroniques, connectés, on va dire, qu'on utilise aujourd'hui dans nos maisons, dans nos habitations, avec nous, sur nous, sans arrêt. Tout ça n'a que 20 ans. Hein, c'est pas depuis la guerre, même si depuis la guerre, évidemment, il y avait déjà des radars, des choses qui émettaient. Mais on va dire que l'exposition aujourd'hui la plus courante et la plus forte, elle existe dans notre vie que depuis une vingtaine d'années.
Ouais, depuis que c'est à usage civil, en fait.
C'est ça, exactement, tout à fait. Tout à fait, ouais.
Bruno Monnier, est-ce qu'on terminerait pas cette interview, je le rappelle, sur le compteur Linky principalement, mais sur ces expositions aux ondes électriques, électromagnétiques d'une manière générale, par ce que tu proposes aux habitants, à qui veut d'ailleurs,
oui.
À savoir quelques stages.
Oui, alors effectivement, j'anime de temps en temps des stages. Alors les stages que j'anime, pour l'instant, je ne fais pas de stage sur les connaissances électromagnétiques. Ce sont des stages qui sont dédiés justement à ce qu'on disait au tout début de l'interview, à savoir la géobiologie pure, c'est-à-dire les énergies subtiles, ce qui vient du sol, de la terre. Et donc ce sont des stages d'initiation qui permettent à tout à chacun de goûter un peu déjà la technique de la radiesthésie, à comment on peut utiliser un peu son corps et les baguettes ou le pendule pour retrouver un peu ces sensations fines et découvrir un peu ces énergies, évidemment, que la plupart d'entre nous, sinon, ont complètement oublié, qui sont inexistantes, alors qu'elles sont pourtant bien là et qu'on les subit. On les subit d'une certaine façon et aussi on peut en profiter. Hein. J'ai tendance à dire bien souvent que dans la nature, tout n'est pas mauvais. Il y a des choses, évidemment, dont il faut se méfier, il y a des choses dont on peut profiter. Et on apprend ça par le biais de ces stages qui sont ouverts à tous. Pour l'instant, je réalise que deux niveaux. Il y a un niveau 1 et un niveau 2, un peu de perfectionnement, où on va un petit peu plus loin. Et il se découpe ainsi, c'est-à-dire que c'est sur une journée, hein, ça se passe sur une journée entière. Le matin, donc il y a un travail un peu théorique pour expliquer ce qu'on va apprendre. On travaille après dans un jardin, ça se passe à Espenel. Donc on travaille tous ensemble, souvent c'est des groupes de 8 à 12.
Dévoile-nous quel intérêt il a ce jardin, géobiologiquement.
Alors là, géobiologiquement, il se passe des choses un peu étonnantes que je vais avoir du mal comme ça à divulguer à l'antenne, mais j'aime aller dans cet endroit puisqu'on fait un travail de recherche d'eau, entre autres, de recherche de sources.
Ah.
Et dans ce jardin, il est riche pour ça, c'est qu'il y a un endroit où on peut détecter un passage d'eau et on peut voir la sortie de l'eau. Du coup, on rend concret la détection qui est évidemment tout abstrait, hein. On fait que travailler dans l'invisible, donc évidemment on peut faire évidemment travailler son ressenti, mais quand on a la capacité en même temps de rendre concret notre ressenti, c'est quand même assez fabuleux. Et ce jardin est intéressant pour ça, c'est qu'on va voir concrètement l'eau qui sort à un endroit et qu'on a détecté en amont 30 mètres plus haut. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est cette première partie dans le jardin. Évidemment, on mange ensemble, c'est plutôt assez convivial le midi. Et l'après-midi, j'emmène les gens là sur ce qu'on appelle des sites sacrés, qui sont en l'occurrence là une petite chapelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mégalithes ici, mais les petites chapelles font office très bien. Et j'essaye de faire découvrir pourquoi cet endroit-là, par exemple, a été choisi pour y mettre une chapelle, voilà, et pas un autre endroit. Il y a des raisons, justement, géobiologiques un peu particulières qui font qu'on a implanté ces lieux à cet endroit-là et pas à d'autres endroits.
Donc là, c'était pas uniquement du délire divin. Il y avait à chaque fois un géobiologue qui décidait pour le clergé.
Quoi. Oui, alors ça s'appelait pas un géobiologue.
Non.
Souvent, c'était peut-être l'architecte, où il y avait des assistants qui avaient ces connaissances-là. Il est même très probable que les noms qu'ils donnaient à ces choses ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas, on retrouve des phénomènes particuliers et que la géobiologie a tendance à expliquer par le biais des relations entre tous les autres sites sacrés. C'est-à-dire qu'on comprend des constructions liées à la, comment on pourrait dire ça, à la carte d'identité énergétique du lieu, justement. Il y a plein de choses qui se retrouvent dans les chapelles, dans les cathédrales, et notamment aussi sur les sites néolithiques, mégalithiques. C'est pour ça que je parlais des mégalithes tout à l'heure, parce que faut pas se leurrer, la plupart des sites, des grands sites chrétiens, comme les cathédrales, Mont-Saint-Michel, etc. et compagnie, sont implantés sur des anciens sites païens mégalithiques. Hein. Nous, nos ancêtres.
Ouais, en fait, peut-être même qu'ils savaient même pas, ils se sont remis là parce que c'était bien. Quoi.
C'est ça. Alors si, ils savaient quand même parce que vu on va dire l'optimisation du lieu aujourd'hui par les grandes cathédrales, etc. C'est comme si c'était un mégalithe, mais ultra sophistiqué. En fait, c'est comme si vraiment on optimisait la capacité du lieu dans ces grands lieux. Et donc les petites chapelles fonctionnent un peu de la même façon. On retrouve des choses similaires sur ces lieux particuliers.
Quand tu parlais de nature bénéfique, c'est ça. C'est installé sur des nœuds ultra puissants.
Exactement. Ce sont des endroits très énergétiques, très forts et du coup très porteurs. C'est une énergie haute, la vibration que produisent ces lieux qui est haute, qui est censée nous porter. Et évidemment, cette énergie haute servait à tout un tas de choses, à sans doute aider l'homme à grandir dans sa conscience, dans la spiritualité, sans doute à passer des caps de vie aussi extrêmement forts que peut-être le passage de l'enfance à l'adulte, le passage de la vie à la mort, tout un tas de choses comme ça. Et donc l'humain, dans sa longue vie, utilisait des lieux particuliers pour s'aider probablement à avancer en conscience.
Voilà donc pour ce premier stage, stage est un peu expert, celui-là vous...
Alors le stage niveau 2, c'est exactement, il est dessiné de la même façon, mais on va plus loin, on trouve d'autres éléments, on avance dans le travail et on va sur une autre chapelle pour montrer aussi que tous les lieux ne se ressemblent pas, c'est-à-dire qu'on va utiliser des lieux différenciés de différentes façons, différentes énergies qui sont tout le temps bénéfiques ou profitables pour nous, mais qui n'ont pas le même sens, je pourrais dire, ou la même raison d'être. Il y a donc un premier stage, alors c'est découpé un peu comme ça, bizarrement, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est des questions d'organisation. Ça démarre par un stage niveau 2 que j'ai annulé à la fin de l'année à cause du temps, donc je redémarre par un niveau 2, qui est le 12 mars, là, qui est samedi prochain. Donc le niveau 2, on n'est pas obligé d'avoir fait le niveau 1 pour faire le niveau 2, mais c'est quand même conseillé. Mais pour faire le niveau 2, il faut au moins avoir un petit peu fait de baguette ou de pendule dans sa vie, avoir un peu testé ça. Et là, si on a déjà fait un petit peu ça, on peut embrayer sur le niveau 2 même sans avoir fait le niveau 1. Mais je conseille d'avoir fait quand même le niveau 1. Donc ça, c'est le 12 mars. Il y a après deux niveaux 1 qui se succèdent, le 26 mars. Donc c'est à la fin du mois, et le 23 avril. Et après, il y a donc un deuxième niveau 2 qui est le 4 juin. Donc ça, c'est pour le premier semestre et je n'ai pas encore établi de date pour le deuxième semestre de l'automne, mais je repasserai vous faire un petit coucou pour vous les transmettre.
Comment s'inscrit-on ?
Eh bien, on s'inscrit en me téléphonant ou idéalement, c'est par mon site internet, c'est le plus facile. Donc vous pouvez avoir accès à mon site en tapant ma-maison-scène.com avec un petit tiret entre le ma et maison-scène. Voilà, ma-maison-scène.com.
Bien sûr, on notera sur cette page, comme tu le suggérais tout à l'heure, tout un tas de liens utiles par rapport au compteur Linky pour continuer à réfléchir sur ce qui arrive. Des liens également vers ton site internet. Il me reste à te dire merci et donc à la prochaine pour parler de ces prochains stages.
Merci beaucoup.
Okay, the bird. L'interview du jour.